Comme c'était rappelé ce matin, nous sommes en pleine route, c'est la dernière ligne droite avant le Vendredi Saint et le week-end de Pâques, le week-end pascal, où nous allons nous rappeler de la résurrection, la mort et la résurrection de notre Sauveur. Et j'espère que, comme tous les chrétiens du monde entier, l'église de Glun est unie dans un esprit de prière alors que cette dernière ligne droite est en train d'arriver. Et ce que je vous propose ce matin, c'est que nous lisions un passage qui a trait à la prière. Et c'est toujours intéressant de se rendre compte que les disciples ne sont pas venus voir le Seigneur en lui disant « Apprends-nous à prêcher », mais ils lui ont dit « Apprends-nous à prier ». Comme nous avons besoin d'apprendre à prier, ouvrons ensemble les Écritures, frères et sœurs. Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 15. Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. On va prier. Seigneur notre Dieu, ce matin nous sommes devant toi et c'est la dernière ligne droite avant la commémoration de ce que tu as fait pour nous à la croix il y a 2000 ans, en donnant ta vie à la place de la nôtre et en triomphant de la mort par la résurrection. Et nous avons cet espoir, Seigneur, c'est que si nous avons mis notre confiance à toi, nous pouvons être assurés de notre avenir éternel parce que tu as tout accompli, Seigneur. Merci pour cette merveilleuse matinée, ce moyen que ce matin tu as souverainement désigné pour que nous puissions venir devant toi, écouter ta parole. Et nous sommes devant toi, Seigneur. Et nous voulons te dire parle. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons te prier afin que tu ouvres les yeux de notre cœur, que tu ouvres notre intelligence, que nos oreilles spirituelles soient attentives, Seigneur. Rends-nous capables d'entendre, mais pas seulement, Seigneur. Rends-nous capables de mettre en pratique ce que nous entendons, Père Céleste. Oh Seigneur, nous abordons ce sujet central du pardon et nous voyons combien dans notre vie, Seigneur, nous avons besoin de vivre ton pardon. Que l'exemple de Christ nous dirige ce matin, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé, mets en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, remplis-nous de cet amour que tu veux répandre dans nos cœurs par le Saint-Esprit, que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et que nous voulons vivre jusqu'à la plénitude. Nous sommes devant toi, Seigneur, maintenant, pour entendre ce que tu as à nous dire. Bénis-nous ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Imaginez que vous avez un iPhone. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un iPhone, c'est un téléphone de marque Apple. Je ne veux pas faire publicité, mais rien que le nom de cette marque devrait vous donner une indication de combien ça coûte. Imaginez que vous avez un iPhone le modèle le plus important, avec la plus forte capacité, le modèle qui coûte 899,99€ quand vous l'achetez sans abonnement, n'est-ce pas? Et vous êtes en train de jouer avec votre iPhone, et vous êtes à la sortie de l'église, et à un moment, il y a un frère qui passe, ou une sœur qui passe, qui vous renverse, l'iPhone tombe par terre, il est complètement cassé. Waouh! Vous avez deux options. Soit, vous dites au frère qui vous a bousculé, « J'espère que t'es bien assuré, toi. » Soit vous lui dites, c'est pas grave, je paierai. Chers amis, le pardon, c'est exactement ce que cette dernière éventualité laisse transparaître. Nous vivons le véritable pardon lorsque nous acceptons d'assumer le coût du préjudice subi au lieu de le mettre à la charge du coupable. Cela implique payer le prix de l'offense, prendre à notre charge le montant de l'offense, du mal que nous avons subi. Le pardon, c'est exactement cela, Le pardon a un coût. Et ce coût peut être divers. Dans l'exemple que je viens de prendre, l'exemple de l'iPhone, ce préjudice, ce chiffre en espèces sonnantes et trébuchantes, de l'argent, n'est-ce pas? Mais même dans les conflits entre personnes, dans lesquels il n'y a parfois aucun enjeu financier, 99% des conflits entre personnes sont pour des queues de cerises, n'est-ce pas? Mais il y a un prix à payer quand même. Laissez-moi vous citer le pasteur Tim Keller de New York. Pardonner signifie refuser de faire payer le responsable. Cependant, vous retenir de vous en prendre à quelqu'un lorsque tout votre être le désire vous met au supplice, c'est une forme de souffrance. Non seulement vous souffrez à cause de l'atteinte portée à l'origine de votre bonheur, à votre réputation ou aux occasions qui se présentaient à vous, mais en plus, vous renoncez à la consolation que vous auriez ressentie en infligeant les mêmes souffrances à l'auteur du préjudice. Vous épongez entièrement la dette au lieu de laisser l'autre l'assumer. C'est extrêmement douloureux. Nombreux sont ceux qui verraient là une sorte de mort. Le renoncement à la vengeance, c'est-à-dire le véritable pardon, a un coût. Et ce coût, c'est la souffrance de celui qui pardonne. Nous avons besoin d'apprendre de Dieu à vivre le pardon. Le pardon, c'est une des plus hautes vertus chrétiennes qui puissent exister. C'est l'amour pratique poussé à son paroxysme. C'est le cœur même du message chrétien. C'est le cœur du Nouveau Testament. C'est le thème central du Nouveau Testament. Un plein pardon pour le pire des pécheurs. Et c'est sur quoi nous allons nous pencher ce matin. C'est juste le cœur du message de Christ que nous allons contempler ensemble, n'est-ce pas? Et il y aurait beaucoup de choses à dire. Et je crois qu'une vie entière ne suffirait pas à sonder les profondeurs de ce que la Bible dit sur le pardon. Mais j'aimerais ce matin relever trois éléments importants que nous devrions tous connaître quand on parle de pardon. Trois éléments importants ce matin pour notre vie, et j'espère qu'ils seront aussi capitaux qu'ils l'ont été pour moi, aussi essentiels lorsque j'ai préparé ce que je voulais vous dire ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Le premier élément que j'aimerais relever, c'est qu'il y a un pardon suprême. Il y a un pardon qui est absolu, ça existe. Le plus grand acte de pardon de toute l'humanité, c'est la croix. La croix, c'est le principal symbole du christianisme. On le retrouve derrière moi, on le retrouve sur le fronton de la plupart des églises, ou autour du cou de nombreux croyants. Mais derrière ce symbole, il y a juste une histoire horrible. Essayez de vous imaginer la scène de Jésus fouetté. La parole de Dieu est vraiment sobre dans les descriptions des souffrances de Christ, mais est-ce que vous savez que la manière dont ils l'ont fouetté, d'ailleurs ils l'ont fouetté probablement deux fois, comme le professeur Carson le met merveilleusement en évidence dans son commentaire de l'évangile de Jean, mais la deuxième fois, la deuxième flagellation qu'il a subie, c'était une flagellation avec un fouet de cuir sur lequel on rajoutait soit des pièces de métal, soit des osselets. Généralement, quand on fouettait les condamnés qui allaient partir à la crucifixion, ça leur entaillait profondément les chairs, parfois jusqu'aux os, à tel point que les condamnés ne pouvaient parfois plus marcher, parfois mouraient pendant qu'ils étaient fouettés. Ne vous étonnez pas si le Seigneur n'a pas pu porter sa croix jusqu'au bout, il ne pouvait même plus marcher. Il était déjà agonisant quand il est sorti de cette séance horrible, terrible, de torture par le fouet. Imaginez-le portant la croix, pliant le genou, saignant jusqu'à perdre la moitié de son sang. Imaginez-le en train de se traîner par terre. Imaginez-le pendant qu'il le tire et qu'il lui perce les poignets. Imaginez-le pendant qu'il lui perce ses chevilles pour le faire tenir sur un bois infâme sur lequel il était en train d'étouffer à cause du poids de son corps. Il devait tirer sur ses bras meurtris pour essayer de respirer. Imaginez l'homme parfait souffrir comme ça. Est-ce que vous imaginez ça? C'est la scène qui a eu lieu il y a 2000 ans. C'est terrible. Jamais l'éternité tout entière n'avait vu et ne verra plus une telle chose, un tel acte de pardon. La mort de Christ à la croix, c'est le plus grand acte de pardon parce que à la croix, celui qui pardonne, c'est Dieu. Quelques explications là-dessus. Il y a une mauvaise nouvelle quand on parle de cela. Et la mauvaise nouvelle, c'est le péché. Et il faut bien comprendre que ce pardon-là, cette croix a été établie. Christ est mort sur la croix parce qu'il y avait quelque chose à pardonner. Et ce quelque chose, ça s'appelle le péché. Oh, chers amis, nous connaissons bien le péché, nous tous, ici, dans cette salle. Nous savons de quoi on parle quand on parle de péché. Étymologiquement, commettre un péché, ça signifie faillir, faire défaut. Je parle de l'étymologie de la langue française. Et cette définition regroupe bien toute la palette de sens, n'est-ce pas, que les différents termes originaux traduits par péché veulent exprimer. Péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas que nous fassions, c'est-à-dire transgresser la loi de Dieu. Mais c'est aussi ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. Jacques 4, verset 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas que nous fassions, c'est ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. Bref, c'est se séparer complètement de la volonté de Dieu pour nous. Nous avons tous péché à un moment ou à un autre. Le péché est universel. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, s'écrit Paul dans Romains 3, verset 23. Et la mauvaise nouvelle, c'est ça, c'est notre péché. C'est une énorme mauvaise nouvelle parce que Dieu est absolument parfait. Il n'y a rien de mauvais en lui, pas un soupçon de mal, et il ne peut pas supporter le péché. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Nos péchés l'insupportent. Ce sont des offenses que nous commettons contre lui et lui font mal. Il ne peut pas les tolérer en sa présence. Cela implique que, à cause de nos péchés, nous sommes, par nature, séparés de Dieu. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Nos péchés qui mettent un obstacle entre nous et Dieu. Ce matin, je lisais l'histoire du transport de l'arche, une fois qu'elle est revenue de chez les Philistins. Elle a été dans une maison, celle d'Obed-Edom, et à un moment donné, vous lisez dans 2 Samuel 6, il transporte l'arche avec des chants de réjouissance. Ils étaient en train de s'égayer tous et danser autour de l'arche, sauf qu'il la transportait sur un char. Et la loi disait explicitement que l'arche devait être portée sur le dos des Lévites avec des barres. À tel point que quand l'arche a failli tomber du char, un homme qui s'appelait Uzza a voulu mettre la main et il est mort sur le champ à cause de la colère de l'Éternel. Ça a l'air anodin pour nous, mais c'était un péché parce que Dieu avait dit « elle sera portée sur le dos des Lévites » et puisqu'on l'a mis sur un char, on n'a pas fait ce que Dieu a dit, ça s'appelle un péché. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous lisez votre Bible, chaque fois que vous n'obéissez pas à la parole, vous péchez? C'est incroyable le nombre de fois chaque jour qu'on pêche, même en tant que chrétien né de nouveau. Le péché est un problème. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu tant que nous n'avons pas réglé le problème légal, le problème de séparation que posent nos péchés. C'est une mauvaise nouvelle, chers amis. Nous avons un problème. Ce problème, c'est le péché. Et tant que nous ne l'avons pas réglé, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Où en es-tu ce matin avec le péché ? Est-ce que la situation de séparation avec Dieu est réglée ? Est-ce que tu es en paix avec lui ? Ou est-ce qu'il est toujours en colère à cause de tes fautes ? Est-ce que la colère de Dieu est toujours sur toi ? Mais je suis pas venu vous annoncer une mauvaise nouvelle ce matin, chers amis. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un plein pardon pour le pire des pécheurs. L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour toi à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un cadeau qui est offert à tous, chers amis. Il est mort dans son intention pour le monde entier. C'est une offre, un appel général qui est fait à tout le monde, chers amis. À la croix, Christ a pris ce que nous méritions, c'est-à-dire la colère légitime et juste de Dieu contre nous à cause de nos péchés. Il nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, son Fils parfait, et il lui a donné la mission de prendre notre place. C'est une bonne nouvelle pour nous. C'est l'Évangile, chers amis, et ça a coûté cher à Dieu de pardonner nos offenses. Ça lui a coûté le prix de son Fils unique. Le Fils unique de Dieu a donné sa vie pour nos offenses, pour payer le prix de nos offenses. Est-ce que vous voyez le prix que ça a coûté? Est-ce que vous mesurez la souffrance que le Fils a subie pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, mais que nous avions fait? Y avait-il quelque chose pour mériter cela? Faut-il être un homme de bien pour bénéficier de ce cadeau, de cette bonne nouvelle, de cette offre que Christ propose au monde entier? Non, c'est une grâce imméritée. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour des pécheurs. Christ est mort pour sauver des gens qui ne le méritaient pas. C'est une grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Et maintenant, très important, chers amis. Imaginez que je suis avec mon iPhone. J'ai une caisse d'iPhone. J'ai 50 iPhones avec une caisse. Et je suis à la sortie de l'église et à chacun d'entre vous, j'offre un iPhone. Et toi, tu arrives devant moi et tu me dis non merci. Il n'y a qu'en Belgique qu'on entend des choses pareilles. Qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Moi, je t'aurais fait un cadeau. Mais ce cadeau, tu ne l'auras pas. Tu repartiras sans ton iPhone. Mais moi, je t'aurais fait un cadeau. Personne ne m'enlèvera la joie et la gloire de t'avoir fait ce cadeau. Ça n'arrivera pas, je précise, hein, c'était juste une illustration. Hein, mais faut mieux se méfier, n'est-ce pas? Si jamais je vous offre ce cadeau et que vous ne le prenez pas, vous repartirez sans ce cadeau. Et ce matin, chers amis, il y a un cadeau qui vous a offert, un plein pardon pour l'ensemble de vos péchés à cause de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour prendre la colère que vous méritiez. Mais si vous partez ce matin sans saisir ce cadeau, vous ne l'aurez pas. Il y aura eu un cadeau qui vous aura été offert, mais vous ne l'aurez pas saisi. Vous n'aurez pas saisi cette grâce. Cette grâce ne sera pas pour vous. Il y a une offre qui vous est faite. Est-ce que vous l'acceptez? Ah, chers amis, j'aimerais vous inviter vraiment à considérer l'offre de l'Évangile qui est faite ce matin pour vous. Que vous ne partiez pas de cette église, que vous ne partiez pas ce matin, que je ne vous laisse pas, chers amis, sans que vous n'ayez pris la ferme décision de suivre Christ qui a donné sa vie pour vous jusqu'à la fin de votre existence. Que vous ne partiez pas sans avoir l'assurance que vous êtes délivré de la colère, non pas parce qu'elle s'est détournée dans un endroit où elle n'aurait pas dû aller, mais simplement parce qu'elle est tombée sur quelqu'un d'autre que vous, Jésus-Christ, l'homme parfait, qui a donné sa vie à la croix, que vous ne partiez pas sans avoir réglé le problème de votre séparation avec Dieu. Chers amis, je vous en prie, réglez cette situation si ce n'est pas fait ce matin. Le deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est que nous sommes appelés à vivre ce pardon suprême, ce pardon de la croix qui se trouve derrière moi, au quotidien. Nous sommes appelés à vivre le pardon suprême au quotidien. Colossiens 3, verset 13. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous sommes appelés à pardonner comme Christ nous a pardonné. Le modèle du pardon, c'est Christ. Nous sommes pardonnés par la grâce, si nous avons saisi cette grâce, pour marcher par la grâce au quotidien. Et si nous pouvons expérimenter le pardon de Dieu et vivre éternellement, c'est uniquement parce qu'il désire nous faire grâce. C'est un don gratuit. Ça ne vient pas de nous. Mais une fois que Dieu nous a fait grâce, il nous appelle à marcher par la grâce. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu Alice au Pays des Merveilles. J'aime bien regarder Alice au Pays des Merveilles, les Walt Disney, les choses comme ça. Dans Alice au Pays des Merveilles, il y a une chose qui m'a toujours plu. C'est qu'ils ne fêtent pas les anniversaires. Ils fêtent les non-anniversaires. Et c'est chaque jour ton non-anniversaire. Et c'est juste une illustration de ce que Dieu fait pour toi dans ta vie. C'est pas juste un jour il te fait grâce et puis ça y est, c'est fini, débrouille-toi. C'est chaque jour je te fais grâce depuis le jour où je t'ai fait grâce initialement. Toute ta vie est une grâce. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Sa grâce, ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque jour où tu peux encore dire aujourd'hui, la fidélité de Dieu est la garantie qu'il renouvelle chaque matin sa provision de grâce de sorte que tu peux mettre un pied devant l'autre parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous marcherez comme vous avez reçu Christ. Marchez en lui. Colossiens 4, verset 6. Marchons en Christ par grâce. De même que nous avons été sauvés par grâce, il est bon que notre cœur soit affermi par l'évangile de la grâce. Lorsque nous acceptons ce cadeau offert par Dieu, alors notre relation avec lui est restaurée. Il vient prendre sa place dans notre vie. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Et alors, réellement commence notre marche avec Dieu. Notre marche par la grâce. C'est impossible de marcher avec Dieu sans Dieu. C'est impossible de marcher avec Dieu par sa propre force. C'est impossible de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Imaginez que vous partiez gravir l'Everest et que vous y alliez comme vous êtes habillé ce matin. Vous ne serez même pas arrivé à un quart de votre ascension de la montagne que déjà vous serez mort de froid. Il vous faut un équipement. Il vous faut un équipement spécial pour gravir l'Everest. Et c'est pareil la marche chrétienne. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne par votre propre force. Il vous faut un équipement spécial et Dieu équipe ceux qui se sont confiés en lui, son Saint-Esprit. Et c'est pas juste une doudoune qui vous donne, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en vous pour que vous puissiez mettre un pied devant l'autre, sinon vous en seriez incapable. Non seulement il vous donne l'équipement extérieur pour résister aux attaques, non seulement c'est lui qui vous fait mettre un pied devant l'autre alors que vous escaladez cette montagne de ce que Dieu veut pour votre vie. Nous sommes équipés du Saint-Esprit pour marcher par grâce au quotidien. Nous sommes pardonnés pour marcher par grâce. C'est pas un one shot, c'est pas juste un événement unique dans votre vie. C'est tous les jours que cette grâce se renouvelle, une fois que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur, et que vous vous êtes engagé à le suivre par grâce. Nous ne pouvons vivre le vrai pardon qu'en Dieu. Nous ne pouvons vivre le vrai pardon qu'en Dieu. J'ai une amie à Paris, c'est une Égyptienne. Sa maman, elle est couturière. Elle est spécialisée dans les retouches de costumes, notamment. Alors, comme j'ai quelques costumes, n'est-ce pas, j'ai été voir cette maman et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me faire des retouches sur les costumes? Est-ce qu'il faut que je vienne pour que tu prennes des mesures? Elle m'a dit non. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu me donnes un costume qui est bien taillé et je te mets tous les autres à la même taille. Exactement pareil. D'après le modèle. D'après le modèle. Chers amis, quand Dieu nous sauve, il nous emmène dans son atelier et il nous façonne d'après modèle. Et le modèle, c'est Christ. Le modèle, c'est Christ. Le Saint-Esprit est une puissance qui agit en nous. C'est Dieu lui-même à l'œuvre pour nous transformer, pour nous rendre semblables à Christ. Quel plan merveilleux que d'être semblable à l'homme parfait, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pardonner comme Christ a pardonné, que si le Saint-Esprit, que si la puissance de Dieu agit en nous, que si nous sommes équipés par le Saint-Esprit, autrement ce ne sera pas le vrai pardon. Autrement, notre pardon ne sera pas à l'image du pardon suprême que Christ nous a accordé à la croix. Nous sommes appelés à vivre le pardon suprême au quotidien. Mais là, peut-être vous avez des objections, chers amis, chers frères et sœurs. Est-ce que vraiment, je dois tout pardonner? Est-ce que Dieu ne me demande pas d'attendre que l'autre se repente, par exemple? Et l'idée que certaines offenses seraient impardonnables sans que n'intervienne la repentance de l'offenseur, n'est-ce pas? C'est une idée assez populaire de nos jours, et à vrai dire, elle a été relayée récemment par un grand théologien francophone, mais elle est cependant étrangère à la parole de Dieu. Laissez-moi vous lire Marc 11, verset 25. « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, vous êtes devant Dieu, vous faites votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Lorsque vous êtes debout, vous êtes en train de prier, vous vous rendez compte que dans votre cœur, vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Chers amis, le pardon que j'accorde n'a rien à voir avec une quelconque démarche de l'offenseur, mais avec ma vie de prière, avec ma relation avec Dieu. Pardonnez comme Christ vous a pardonné. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, Matthieu 6, 44. Comment est-ce que je peux prier? Comment est-ce que je peux bénir, faire du bien à quelqu'un qui me hait, qui me maltraite, si je lui ai pas déjà pardonné de tout mon cœur? C'est rigoureusement impossible. Et si nous sommes appelés à pardonner comme Christ a pardonné, à aimer comme Christ a aimé, alors il faut nous souvenir que c'est lorsque nous étions encore ennemis que Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore offenseurs que Christ est mort pour nous. Et si vous voulez vérifier chez vous, relisez Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Lorsque nous étions encore loin, lorsque nous étions encore ennemis, Christ est mort pour nous. Il a pardonné à ses ennemis. Il leur a pardonné. Nous sommes disciples de celui qui a donné sa vie pour ses ennemis. Nous sommes disciples de celui qui a donné sa vie pour nous. Et nous marchons à sa ressemblance. Notre pardon est absolument inconditionnel. Il n'attend rien en retour. Pensez aux bénéfices du pardon. C'est normal que Dieu ait fait des choses comme ça. Pensez aux bénéfices pour celui qui pardonne. Parce que paradoxalement, chercher à se venger, c'est-à-dire chercher à faire payer le prix de l'offense à celui qui nous offense, ne nous soulagera jamais. Jamais. Christ nous a communiqué son amour à la croix en payant le prix que méritaient nos offenses. Et si nous tardons à pardonner ceux qui nous offensent, nous nous privons d'une grande source de bénédiction. Nous nous privons de la source de bénédiction de laisser l'amour de Christ nous inonder complètement. Je veux dire, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est comme un fleuve éternel qui se met à couler, les fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein, n'est-ce pas? Ce fleuve éternel coule et dans notre vie, des circonstances viennent mettre un barrage au fleuve de cet amour. Par exemple, les offenses que nous recevons et qui nous heurtent. Pardonner, c'est faire sauter le barrage et permettre que ce fleuve d'amour se répande dans tout notre cœur jusqu'à ce que ça déborde. Tu oins d'huile ma tête, ma coude déborde. Est-ce que vous voulez déborder en tant que chrétien? Pardonnez. Pardonnez. Et vivez le plein pardon que Christ a vécu pour vous, à sa ressemblance. Il y a un bénéfice dans le pardon. Il y a un bénéfice à relâcher l'offense. À relâcher l'offenseur. Je prends sur moi le prix, mon ami, parce que Christ m'a pardonné alors que j'étais son ennemi, et tu es mon ennemi, je te pardonne. Il y a une chose merveilleuse au sujet du pardon, mais il y a une énorme responsabilité aussi, chers amis. Et cette responsabilité, c'est qu'il n'y a pas de pardon pour celui qui ne pardonne pas. Il n'y a pas de pardon pour celui qui ne pardonne pas. Matthieu 6, 15 que nous avons lu. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le texte est clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Chers amis, chrétiens de l'église de Glun, souvenez-vous que ça ne sert à rien de mettre votre argent dans la collecte, à moins que vous ne vous souveniez premièrement de pardonner à votre frère, de pardonner à votre sœur. Vous êtes tous venus chanter ce matin. Oh, on était contents d'être ensemble, d'adorer le Seigneur, de se réjouir ensemble. Mais est-ce que vous avez pardonné à ceux qui vous ont offensé? Ou est-ce que l'offrande de louange que vous apportez ce matin, l'offrande financière que vous apportez ce matin, est vaine parce que vous retenez quelque chose contre quelqu'un? Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs. Dieu n'accepte pas les dons. Dieu n'accepte pas les prières et les louanges d'un cœur implacable. Même si vous laissez toute votre fortune à sa cause, il n'en acceptera pas un sou si vous mourrez dans un esprit implacable. Il n'y a pas de grâce là où il n'y a pas de volonté de passer sur les fautes. Jean a dit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? À moins que vous n'ayez pardonné aux autres. C'est votre propre arrêt de mort que vous lisez quand vous récitez le Notre Père. À moins que vous n'ayez pardonné aux autres, c'est votre propre arrêt de mort que vous lisez quand vous récitez le Notre Père. Vous objecterez peut-être, mais attends, mais il y a la grâce, monsieur le prédicateur, t'es bien gentil ce matin, mais il y a la grâce, quoi. Laissez-moi vous répondre que si vous vous endurcissez contre votre prochain, c'est contre la grâce de Dieu elle-même que vous vous endurcissez. Si vous refusez de pardonner à quelqu'un, il n'y a que deux possibilités, chers amis, ce matin. Soit tu t'es endurci contre la grâce que tu as reçue quand Christ t'a pardonné. Et ce matin, Dieu utilise souverainement le moyen de ce culte pour t'inviter à te repentir, pour t'inviter à renoncer, pour t'inviter à pardonner. Soit, c'est que tu n'as jamais été au bénéfice de cette grâce. Cette grâce, tu ne l'as jamais reçue. Tu n'as jamais été pardonné par Christ. La colère de Dieu demeure sur toi. Où en es-tu ce matin? Où en es-tu dans le pardon de ceux qui t'offensent? Troisième élément et dernier élément. Nous sommes appelés à proclamer le pardon. nous sommes appelés à proclamer le pardon, comme Charles le rappelait tout à l'heure, jusqu'aux extrémités de la terre. Essayez de vous imaginer. Vous venez de trouver un moyen de prévoir et de prévenir les catastrophes naturelles. Par exemple, ce tsunami qui a ravagé l'Asie du Sud-Est il y a quelques années maintenant, je n'ai pas le nombre d'années exactes, mais ce tsunami a fait 300 000 morts, vous imaginez? Imaginez que vous auriez pu prévoir et prévenir le tsunami qui a frappé le Japon et que vous gardiez ça pour vous. Quel genre de personne vous êtes si vous faites cela? Vous êtes juste le pire égoïste que la Terre n'ait jamais porté. Un égoïsme dramatique, un égoïsme incompréhensible, un manque d'amour. Vous vous rendez compte? Vous savez que 300 000 personnes vont mourir et vous ne les prévenez pas alors que vous le savez. Ça serait manquer d'amour d'une manière incroyable. Mais l'Évangile, c'est plus que cela encore. C'est pas prévenir des catastrophes naturelles, c'est prévenir de la catastrophe éternelle. L'Évangile, c'est une meilleure nouvelle que cela. Toutes les promesses qui sont liées au pardon de Jésus-Christ sont éternelles. Nous mourrons tôt ou tard. Et si vous voulez une statistique ce matin, c'est que 100% des hommes et des femmes sur cette terre vont mourir. C'est la meilleure statistique du monde. Elle est infaillible. Vous allez mourir. Je vais mourir. Le pape qui vient d'être élu va mourir. Le roi de Belgique va mourir. Nous allons tous quitter cette terre tôt ou tard. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Nous mourrons tôt ou tard. Ce monde va être détruit tôt ou tard. Mais nous avons une bonne nouvelle qui annonce la vie éternelle avec Dieu. Chaque fois que vous annoncez l'Évangile aux gens dans la rue, vous leur donnez un avant-goût de l'éternité. Le royaume de Dieu s'avance, n'est-ce pas? À quoi ressemblons-nous lorsque nous n'annonçons pas l'Évangile? Pouvons-nous dire que nous aimons les autres, que nous aimons nos prochains, si nous ne leur parlons pas de Jésus? Pouvons-nous dire que nous aimons ceux qui nous entourent? Nous avons été pardonnés pour proclamer. Je me rappelle au tout début de ma vie chrétienne, je venais d'être délivré de la drogue. J'étais assis au premier rang de l'église et je priais, je chantais des cantiques, mais j'hallucinais simplement. J'étais comme dans un rêve, comme dit le psaume. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Dieu m'avait délivré et j'étais assis et je me disais, mais Seigneur, pourquoi t'as fait ça avec moi? J'ai connu des gens qui étaient moins pourris que moi. J'en ai connu d'autres qui étaient plus pourris. Pourquoi avoir permis que moi j'accepte cette grâce et que je sois là devant toi? Et toutes sortes de questions se pressaient dans ma tête. Jusqu'à ce que je comprenne que j'avais été sauvé pour proclamer. Pardonner pour proclamer celui qui nous a pardonné. 1 Pierre 2, verset 9. Vous avez été sauvé afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pardonner pour proclamer son pardon. Pardonner pour proclamer sa gloire. Proclamer sa délivrance. Pardonner pour aimer comme Christ à aimer. Nous sommes pardonnés pour cette tâche. Êtes-vous pardonnés ce matin, frères et sœurs? Proclamez. Vivez le pardon jusqu'à sa plénitude. Pardonnez aux autres. Proclamez le saint pardon. Proclamez-le par votre bouche. Proclamez-le par votre exemple, en leur montrant que vous êtes prêts à prendre le prix de l'offense et des offenses. Nous aurons de multiples occasions d'en avoir dans notre vie. Les pardonnerons-nous? Il est temps de conclure maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner en pratique? Je crois que la meilleure définition du pardon, la définition la plus biblique que je n'ai jamais lue, c'est celle du puritain Thomas Watson. Voici ce qu'il a dit. Question. Quand pardonnons-nous aux autres? Réponse. Lorsque nous luttons contre toutes nos pensées de vengeance, quand nous ne rendons pas le mal à nos ennemis, mais souhaitons leur bien, lorsque nous pleurons sur leur malheur, lorsque nous prions pour eux, lorsque nous nous réconcilions avec eux, et lorsque nous nous montrons prêts en toute occasion à leur venir en aide. C'est la meilleure définition du pardon que je n'ai jamais vue. Finalement, l'Évangile, chers amis, c'est simple. Comme je le disais pour ceux qui étaient là vendredi soir, dans cette salle, il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui ont été pardonnés et ceux qui ne le sont pas. Regardez dans votre cœur. Est-ce que vous êtes capable de pardonner aux autres? Si c'est le cas, c'est la meilleure preuve que vous avez été pardonné. J'aimerais te demander ce matin, est-ce que tu as reçu le pardon de Dieu? J'aimerais te demander ce matin, est-ce que tu as des situations à régler dans tes relations avec les autres? Est-ce qu'il y a des offenses pour lesquelles tu refuses de payer le prix, comme Christ a payé le prix pour les tiennes? J'aimerais te demander, Que feras-tu pour que la meilleure nouvelle du monde soit connue de tous? On va prier. Oh Seigneur, merci pour ta parole, parce que tu ne nous caresses pas dans le sens du poil, mais tu nous challenges, mon Dieu, parce que tu veux que nous vivions sur cette terre cette vie de résurrection dont nous allons parler dimanche prochain, dans toutes nos églises, dans tout le monde entier, en nous souvenant que tu es mort à la croix pour nous il y a 2000 ans. Nous sommes ressuscités avec toi, et nous voulons donc par conséquent chercher des choses d'en haut, et ne pas vivre comme si la terre était la chose la plus importante. Nous voulons vivre ce plein pardon que Christ nous a accordé. Nous voulons vivre une vie où on fait mourir le péché chaque jour, par le pardon, par la puissance de la grâce, par cette vie impérissable qui est cachée avec Christ en Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui et nous voyons toutes nos limites, le péché qui nous enveloppe si facilement, la chair qui est faible malgré notre esprit bien disposé, et toutes les tentations que nous devons subir chaque jour et en même temps toutes les relations difficiles que nous avons même dans nos églises entre nous et aussi avec nos voisins, nos familles, ceux que nous appelons nos amis, nos collègues, tous ceux qui chaque jour ont de grandes opportunités pour nous offenser. Père céleste, que nous puissions refléter Christ dans ce monde, marcher comme il a marché, vivre comme il a vécu, pardonner comme il a pardonné. Père céleste, accorde-nous la grâce d'être exactement à l'image de ce divin modèle que tu nous as donné en Jésus-Christ, et que dans notre cœur, les sentiments qui étaient en lui soient identiques, afin que nous pardonnions comme lui-même nous a pardonné, et que le monde entier voit qu'il n'y a pas de plus grand message que celui du plein pardon que tu accordes à celui qui s'est confié en toi. Nous te remercions ce matin pour le pardon que tu nous as accordé, et je veux te prier pour les personnes dans cette salle qui peut-être ne savent pas encore où elles en sont avec toi, Seigneur, ou peut-être qui croient depuis des années qu'elles vivent une vie chrétienne normale, alors que peut-être elles n'ont jamais pris conscience qu'ils avaient besoin de régler le problème de la colère que tu as justement contre les pécheurs. Seigneur, je te prie que ce matin, personne ne puisse partir de cette salle sans avoir réglé la question du péché et de la colère de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu suprêmement élevé. Amen.